Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Bienvenue. L'antenne vous appartient. Dans un instant, comme tous les matins, nous répondrons à toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous venez d'entendre le journal. Vous souhaitez peut-être mieux comprendre certains éléments. 33 9 693 693 70. C'est le seul numéro de téléphone que vous devez composer. Sinon, vous nous envoyez vos questions via les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, comme tous les vendredis, la libre antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Vous pouvez évidemment nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission. Vous nous écoutez à l'étranger, et bien justement, appelez-nous, parlez-nous des sujets qui font l'actualité chez vous. 33 9 693 693 70. Je peux vous dire déjà que vous êtes quelques-uns à souhaiter réagir sur la réforme constitutionnelle au Mali, réforme dénoncée par l'opposition. On va en parler d'ailleurs dans un instant avec notre correspondant sur place puisque nous avons des questions. Des réactions également sur la situation sécuritaire dans le Poule au Congo-Brazzaville. Et vous êtes encore très nombreux ce matin à souhaiter revenir sur le sujet qui fait débat en ce moment en Guinée. Faut-il légaliser la polygamie ? Nous y reviendrons évidemment tout à l'heure avec vos témoignages et vos commentaires. Mais d'abord donc, vos questions. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Des questions sur la crise diplomatique dans le Golfe avec le bras de fer qui oppose l'Arabie Saoudite au Qatar.
Oui, voilà. Donc, le Sénégal a rejoint la liste des pays isolants, le Qatar, par rapport à la crise dans le Golfe, en rappelant son ambassadeur à Doha. Ainsi, j'ai deux questions. La première, comment expliquer cette décision des autorités sénégalaises si l'on sait que les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Qatar semblent plutôt bonnes. Et peut-on s'attendre à une rupture diplomatique entre les deux pays ? C'est ça la première question.
Rupture diplomatique entre le Sénégal et le Qatar. Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant permanent de RFI à Dakar. C'est vrai que les pays africains prennent position dans cette crise. La Mauritanie et les Comores ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha. Le Tchad a rappelé son ambassadeur au Qatar, tout comme le Sénégal. Le gouvernement sénégalais, et c'est important de le rappeler et de le préciser, Guillaume Thibault, qui ne parle pas pour l'instant de rupture des relations avec le Qatar.
Tout à fait, Juan, et il faut être très précis, il n'y a pas de déclaration officielle sur ce dossier. C'est en off que des responsables du gouvernement nous ont donné ces explications. C'est un dossier très sensible, on ne parle pas, il n'y a uniquement un communiqué officiel qui est d'ailleurs signé par le gouvernement. Cela peut paraître étonnant car la posture de l'État sénégalais est radicale. Rappeler un ambassadeur, c'est une décision diplomatique qui est forte, qui est très claire. En effet, le gouvernement dit il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de suspension des relations avec le Qatar. Les affaires courantes sont gérées à l'ambassade à Doha, indique un responsable des autorités ici à Dakar. Et cette ambassade sénégalaise n'est donc pas fermée pour le moment. Vu la situation mondiale, la fronde internationale à l'encontre du Qatar, les autorités qataries n'ont sans doute pas encore le temps pour gérer, pour répondre peut-être dans l'immédiat aux autorités du Sénégal. L'ambassadeur en poste ici à Dakar n'a par exemple pas été rappelé. Cette affaire ne fait pas non plus beaucoup parler, notamment dans la presse. Il n'y a rien dans les journaux sénégalais ce matin. À voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si ce coup de massue du Sénégal, car c'est un coup de massue que les autorités viennent d'envoyer, puisqu'il met un terme à la lune de miel entre les deux pays. À voir si ce coup de massue, il a une suite, soit de la tension. Le Qatar, il faut le rappeler, appuie la coopération. Le Qatar a aussi accueilli Karim Ouad sur son sol l'an dernier, et ce pays pourrait se braquer. Macky Sall joue avec le feu, disant off certains membres de l'opposition. Le président sénégalais a en tout cas pris la décision de suivre la ligne défendue par les États-Unis dans ce dossier qatari, dans un autre dossier très sensible, celui entre la Palestine et Israël. S'il y a une réplique, quoi qu'il arrive, elle viendra en tout cas de Doha.
Alors justement, Abdoulaye, vous avez une autre question.
Voilà, j'ai une autre question. Voilà, c'est-à-dire que quel impact cette situation peut-elle entraîner sur le sort de Karim Ouad accueilli par le Qatar depuis sa sortie de prison?
Ouais, vous en parliez à l'instant, Guillaume Thibault. Quel sort sera réservé à l'ancien ministre, au fils de l'ancien président sénégalais qui vit en exil à Doha? Difficile à dire. On peut tout de même rappeler, Guillaume Thibault, que Karim Ouad était en prison à Dakar et qu'il a été quasiment exfiltré l'an dernier.
Tout à fait, Juan, et c'est un sujet sensible, ici quasiment tabou. Un départ en pleine nuit l'an dernier, dans le secret, vers une destination qui était à l'époque complètement inconnue et qui était donc le Qatar. Cet exil de Karim Ouad s'est organisé durant des mois à la présidence ici à Dakar. Rien n'a fuité et c'est le procureur du Qatar qui était à la manœuvre de l'autre côté. Les plus folles rumeurs ont circulé depuis un an. Alors, il y a désormais deux options sur la table si on fait de la prospection, j'ai envie de dire. Les autorités du Qatar pourraient décider de ne pas bouger, de respecter l'accord qui a été signé entre guillemets avec le Sénégal, même s'il n'a jamais été question officiellement d'accord. Ou au contraire, estimer que la décision diplomatique du Sénégal de faire revenir l'ambassadeur n'est dans le fond pas acceptable et utiliser peut-être Karim Ouad pour faire plier le Sénégal, pour obliger le pays à revenir à des relations normalisées en faisant revenir par exemple l'ambassadeur à Doha. Un éditorialiste de la place de Dakar pose, c'était avant-hier, au cas où tout rentre dans tes voisins, comment le Sénégal...
Alors on a des micros... de son ambassadeur. On a des micro-coupures. Guillaume Thibault, peut-être pour essayer de basculer sur la ligne téléphonique, puisque le réseau satellite ne fonctionne plus, juste pour nous dire en substance ce que révélait ou disait l'éditorialiste sénégalais.
Ah oui, c'était juste pour terminer cette intervention. Cet éditorialiste posait une question simple en disant, au cas où tout rentre dans l'ordre entre le Qatar et ses voisins, comment le Sénégal va-t-il justifier le rappel de son ambassadeur ? Éditorialiste qui conclut... Qui a dit qu'il ne faut jamais mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce?
Ah, voilà qui est dit. Et on aura l'occasion tout à l'heure, je le sais, puisque je vois les appels arriver au standard, on aura l'occasion de commenter la décision donc du Sénégal de rappeler son ambassadeur à Doha. Et on verra évidemment si la liste de la coalition anti-Qatar va s'allonger dans les prochains jours sur le continent africain. Je vous parlais tout à l'heure de la Mauritanie, des Comores, du Tchad, du Sénégal. Djibouti a également décidé de son côté de réduire sa représentation diplomatique dans l'Émirat. Et le Gabon soutient également l'Arabie Saoudite et condamne, je cite, les agissements récurrents du Qatar en faveur du terrorisme. Vous souhaitez commenter cette actualité, 33 9 693 693 70. Merci Guillaume Thibault, bonne journée à Dakar. On remercie Abdoulaye qui nous appelait du Sénégal. Des questions maintenant sur la révision constitutionnelle au Mali. Un référendum est prévu dans tout juste un mois, ce sera le 9 juillet. Bonjour Bala.
Bonjour Juan, bonjour les militaires.
Vous nous appelez de Paris, nous vous écoutons.
Alors, j'ai appris sur les médias locaux, ainsi qu'un récit aussi, que les députés maliens ont adopté une révision constitutionnelle au Mali. Alors, ma question est la suivante. En quoi consiste cette révision, puisque l'opposition dénonce le renforcement du pouvoir présidentiel?
Alors, le réseau téléphone n'est pas très très bon, bah là, c'est dommage, vous êtes pourtant à Paris, mais c'est vrai qu'on assiste à une passe d'armes entre l'opposition et la majorité concernant cette révision de la Constitution. D'ailleurs, hier, les détracteurs de la révision constitutionnelle ont marché, ils ont manifesté à Bamako. Bonjour Anthony Fouchard.
Bonjour Juan.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Bamako. Alors, expliquez-nous pourquoi la révision constitutionnelle suscite un tel tollé au sein de l'opposition.
Alors déjà, ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette révision constitutionnelle, elle ne sort pas de nulle part. Elle est nécessaire, elle est dans les tuyaux depuis plusieurs années, notamment depuis la signature de l'accord de paix d'Alger, donc signé en 2012. Cet accord de paix mentionne la nécessité d'instaurer plus de représentativité au sein des institutions, d'où la création de cette deuxième chambre, en plus du Parlement qui existe déjà, créer un Sénat, un peu comme dans le système français où nous avons une Assemblée nationale bicamérale. C'est donc une nécessité.
Oui. Mais, si je comprends bien, ce n'est pas la création du Sénat en tant que telle qui pose problème, c'est plutôt la désignation des sénateurs.
Effectivement, car là, la constitution qui a été votée par les députés, donc ça a été accepté déjà par l'Assemblée nationale, il faudra que ça soit entériné par référendum, et bien ce projet de constitution prévoit que le président puisse nommer un tiers des sénateurs de son choix. Donc, alors c'est évidemment inquiétant car le président peut nommer qui il veut sans contrôle. L'objectif de cette mesure officiellement est de donner une voix, par exemple aux autorités coutumières du Nord, sans qu'elles soient élues, de donner plus de représentants. En fait, mais dans les faits, rien n'encadre pour l'instant les choix du président, même si la majorité parlementaire promet que ce pouvoir finira par être encadré par une loi.
Ouais. Anthony Fouchard, y a-t-il tout de même d'autres dispositions qui fâchent les opposants ?
Il y en a d'autres, effectivement, et parmi elles, toujours une histoire de désignation. Avec cette nouvelle constitution, le président pourra désigner le président de la Cour constitutionnelle. Alors c'est une nouvelle fois d'une importance capitale, car c'est le président de cette Cour constitutionnelle qui proclame les résultats des élections, par exemple, et dont les décisions font foi, l'avoir de son côté est donc loin d'être anodin, surtout que les élections présidentielles au Mali se profilent, ce sera en 2018. Donc voilà, une nouvelle chose qui fâche les opposants.
Oui, bah là, vous avez une autre question.
Ma deuxième question sur le référendum, selon le mouvement de...
Alors attendez, excusez-moi Bala, est-ce que vous avez une oreillette?
Non, pas du tout.
Parce qu'on vous entend quand même très mal, c'est pour cela.
Ok, donc je reprends ma question. Selon le mouvement, les autorités maliennes ne peuvent garantir que le référendum puisse avoir lieu au Mali. Et pourquoi et comment compte-t-il s'organiser pour que la population puisse participer à ce référendum du 9 juillet?
Bon, on a beau tendre l'oreille, vraiment on a du mal à vous comprendre, Bala. C'est une question pertinente que vous posez, Anthony Fouchard, l'auditeur a raison. Comment organiser un scrutin sur l'ensemble du territoire alors que l'État ne le contrôle pas? L'opposition affirme que la situation sécuritaire dans le nord, dans le centre du pays, ne permet pas pour l'instant de tenir un tel référendum.
Eh bien écoutez, Juan, il n'y a pas que l'opposition qui pense ça, il y a aussi une majorité de la société civile et il est difficile de les contredire au vu de ce qui s'est passé lors des dernières élections. Rappelez-vous, c'était en novembre 2015 au Mali, c'était les élections municipales. Plusieurs dizaines de villes n'avaient pas pu élire leurs élus locaux dans le centre du pays, mais aussi dans le nord. Des urnes avaient été brûlées, volées, des agents électoraux.
Ah. Décidément, on n'a pas de chance ce matin avec les télécommunications. Alors attendez, excusez-moi, Anthony Fouchard, on est en direct évidemment, il y a une coupure de faisceau entre Paris et Bamako. Vous nous disiez qu'il y avait plusieurs dizaines de villes qui n'avaient pas pu élire leurs élus locaux lors des précédentes élections. Les dernières élections, c'était donc en novembre 2015. On peut dire qu'à l'heure actuelle que l'État ne contrôle pas l'ensemble du territoire malien.
Exactement, c'est ce que je vous disais, Juan, l'État ne contrôle absolument pas son territoire, donc envisager un référendum sur l'ensemble du pays est un peu utopique, et je vous prenais l'exemple de ces élections municipales de 2015, c'est ce qui fait bondir l'opposition et la société civile, car la Constitution, je le rappelle, c'est quand même la loi fondamentale d'un État, et se passer d'une partie d'un pays pour entériner cette révision, eh bien c'est un peu nier la démocratie, et je cite dans ce cas-là l'opposition malienne.
Ouais, merci Anthony Fouchard. En direct de Bamako et nous nous excusons bien évidemment pour les problèmes de téléphone. Bala, bonne journée à Paris. Nous restons en France. Koné nous appelle de Montpellier. Bonjour Koné.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions sur la mort en début de semaine de l'international ivoirien Cheikh Tiote, décédé brutalement suite à un malaise survenu alors qu'il s'entraînait avec son club chinois.
Bien sûr.
J'ai entendu
sur votre antenne lundi dernier le décès de l'ex-joueur international Cheikh Ismaïl Tiote, qui est décédé d'un crise cardiaque lors de l'entraînement avec son club BG. Ma question est suivante. Comment expliquer pendant un an des joueurs africains sont morts d'un arrêt cardiaque?
Comment expliquer qu'en un an, plusieurs joueurs africains sont morts d'un arrêt cardiaque? C'est vrai que le bilan est très lourd. 5 joueurs africains sont morts sur un terrain de football suite à un arrêt cardiaque ces 12 derniers mois. Bonjour Jean-Marc Sen.
Bonjour Juan.
Vous êtes
Bonjour.
Médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Les auditeurs de RFI vous connaissent bien puisque vous intervenez régulièrement dans l'émission Priorité Santé. On peut avoir l'impression, vu de l'extérieur, qu'on assiste à une sorte de recrudescence des cas de mort subite de joueurs africains. Y a-t-il une explication?
Bon, Juan, absolument. Ça peut être effectivement, comme ça, vu de l'extérieur, une idée qu'on peut se faire. Je pense néanmoins qu'il faut avoir une certaine prudence pour conclure à cela. Tout simplement parce qu'une année, c'est un petit peu court. Je regardais simplement, si on regarde les années précédentes, par exemple, en 2013, on a vu aussi beaucoup de morts sur les terrains de foot et il y avait très peu à ce moment-là de joueurs africains. Donc là, déjà, il faut se poser la question, tout simplement, ce qu'on n'est pas dans une fameuse loi des séries.
Oui, et si je peux me permettre, Jean-Marc Sen, pour en avoir discuté un tout petit peu avec le service des sports des RFI, Philippe Zigraf me rappelait il y a 2 jours que depuis 2010, sur 24 footballeurs décédés d'une crise cardiaque sur le terrain ou à l'hôpital après un malaise sur le terrain, sur les 24 footballeurs, 11 étaient tout de même africains.
Oui, alors là aussi, il faut toujours, évidemment, on est là dès qu'on est dans l'étiologie un peu ethnique, il faut bien sûr toujours se dire, est-ce qu'on a affaire à un biais de sélection ou est-ce qu'on a une prédisposition génétique? Et là, il faut se méfier toujours de ces biais de sélection, parce que s'il y a beaucoup de joueurs africains, on va dire, dans les joueurs de football ou dans les équipes qui sont concernées, évidemment, on a un biais de sélection et évident. Là-dessus, il faut dire que ce sont des clubs sportifs de haut niveau qui doivent faire régulièrement des bilans préalables de dépistage, et donc on peut imaginer que ces joueurs aient subi ces batteries de tests qui passent dans ces différents clubs. Donc dire aujourd'hui qu'il y aurait par exemple une prédisposition génétique, en tout cas malheureusement aujourd'hui on ne connaît pas d'études extrêmement sérieuses qui puissent l'affirmer. Ouais. Par exemple,
On a entendu dire, Jean-Marc Sen, vous êtes médecin, vous allez pouvoir le confirmer ou au contraire le contredire, les sportifs d'une façon générale, bon, quand ils font du sport, le cœur grossit. Et on entend dire parfois que le cœur d'un sportif africain grossirait davantage.
Alors, il y a effectivement une discussion que nous décrivent les cardiologues du sport, qui est de dire qu'effectivement, physiologiquement, naturellement, le cœur, lorsqu'on fait du sport, grossit. Et puis, il grossit donc de manière physiologique, normale. Et ce qu'on recherche, lorsque c'est une anomalie cardiaque, hein, lorsqu'on meurt sur un terrain de foot, c'est parce qu'on a une anomalie cardiaque, avec souvent, quand il s'agit de sujets jeunes, c'est ce qu'on appelle, alors je vais dire un gros mot, une cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire c'est un cœur qui grossit anormalement, et quelquefois il existe comme ça une subtilité pour pouvoir distinguer un cœur gros normal ou un cœur gros anormal. Alors ça, c'est les cardiologues qui sont chargés de faire cette distinction et de pouvoir éventuellement émettre un risque de mort subite si cette hypertrophie cardiaque, ce grossissement du cœur est détecté comme anormal. Et on se rend compte que à certains examens cardiovasculaires, eh bien les paramètres chez les joueurs africains sont quelquefois justement un petit peu différents de ce que l'on observe chez d'autres origines ethniques. Et donc quelquefois ça peut induire effectivement des petites discussions, mais à chaque fois qui sont au cas par cas. Alors, est-ce qu'il s'agit du cas du joueur Thioté là qui est décédé? C'est vraiment difficile de le dire puisqu'on ne le sait pas. Ce qui est certain, je ne crois pas que ce soit encore le cas, ben il faudrait avoir la cause certaine de son décès, et ça souvent il faut réaliser une autopsie. Donc est-ce que cette autopsie a été demandée? Ça je ne le sais pas.
Ouais, après on connaît pas le détail effectivement de ce dossier. Jean-Marc Sen, merci beaucoup de vous être libéré quelques minutes ce matin. Je sais que votre emploi du temps est très chargé, mais bon, voilà, on avait plusieurs questions allant dans ce sens-là, et nous sommes là pour tenter évidemment d'y répondre tous les matins. Merci à Conné qui nous appelait de Montpellier. Merci à vous, Jean-Marc Sen, qu'on vous retrouvera très certainement rapidement dans l'émission Priorité Santé, puisque vous présentez une chronique dans ce magazine. Et je rappelle que vous êtes médecin de l'équipe de France de judo. 33 9 693 693 70. D'autres questions à la rédaction lundi. C'est vrai qu'on avait prévu d'autres auditeurs ce matin, mais enfin, vu le temps qu'il nous reste, ce serait dommage de les prendre très rapidement, trop rapidement à l'antenne. Lundi, d'ailleurs, sachez que nous serons au lendemain du premier tour des élections législatives en France et nous allons profiter des 20 premières minutes de l'émission pour répondre à toutes vos questions sur les enjeux du scrutin, sur l'avenir des partis traditionnels, sur le renouvellement de l'Assemblée nationale. On verra évidemment dès dimanche soir 20h si le président Emmanuel Macron aura une majorité pour lancer ses réformes. En tout cas, tous les sondages donnent son mouvement, La République en marche largement en tête. Certains parlent même d'un raz-de-marée à l'Assemblée nationale. Donc surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, posez-nous toutes vos questions et on se fera un plaisir avec tous les experts de vous répondre. 33 9 693 693 70. À suivre le journal et on sera de retour juste après dans 10 minutes pour la libre antenne. Vos réactions, vos commentaires, vos coups de gueule, coups de cœur sur l'actualité de la semaine. On va parler notamment de la crise diplomatique dans le Golfe et le bras de fer Arabie Saoudite-Qatar. Bras de fer qui se joue d'ailleurs également, on en parlait tout à l'heure, sur le continent africain, des réactions sur la situation dans le pool, sur la révision constitutionnelle au Mali, des réactions également sur la polygamie, le sujet fait la une en Guinée. Bref, nous avons de quoi débattre ensemble et ce sera juste après le journal. À tout à l'heure.
Bonjour.